Radio Okapi. Interface.
La crise sécuritaire dans l'est de la RDC freine le développement de ce pays. C'est depuis 1996 que la région du Kivu et de l'Ituri connaissent plusieurs épisodes d'affrontements armés. L'instabilité de la région est due principalement à l'activisme des groupes armés étrangers et nationaux. Le gouvernement dénonce l'agression rwandaise sous couvert du M23 et s'insurge contre l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. Pour faire face à cette crise, ramener la paix dans l'est du pays et relancer le développement, le chef de l'État fait appel à la mobilisation nationale alors que l'Assemblée nationale interdit par une résolution toute négociation avec les forces négatives visant leur intégration, brassage ou mixage dans l'armée. Ces mesures sont-elles efficaces? Comment la classe politique et toute la nation répondent-elles à cet appel du chef de l'État? Quel rôle joue le Parlement dans les efforts de résolution de cette crise et que faire pour que les richesses de l'Est du pays soient réellement au service du développement de la RDC? Toutes ces questions seront abordées dans Interface de ce jour. À la coordination et présentation, Michel Kifindangoy. Interface, c'est parti! Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interface qui se penche sur le rôle du Parlement dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais aussi de la réponse populaire à l'appel à la mobilisation faite par les chefs de l'État, ainsi qu'à la stratégie pour que les ressources naturelles de la partie orientale du pays contribuent au développement de la RDC. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment d'éternes divergences politiques pour défendre tous ensemble notre mère patrie. Ces propos sont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son allocution à la Nation jeudi 3 novembre. Le chef de l'État a compati tout d'abord avec plus de 200 000 compatriotes qui ont fui leur milieu. Il a aussi demandé aux vaillants soldats de défendre, protéger l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité du peuple congolais. Par la même occasion, Félix-Antoine Tshisekedi a appelé le peuple congolais à la mobilisation générale. Il a mis en garde les traîtres qui travaillent avec l'ennemi et aux jeunes qui ont la volonté, il leur a demandé d'intégrer l'armée régulière pour défendre la patrie. On écoute ces propos du chef de l'État dans cet extrait proposé par Fulbert Balolagué.
Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit. Pour faire face à cette situation, l'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience.
48 heures après l'appel à la mobilisation du chef de l'État, les députés nationaux dits révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la Nation, sortent de leur silence face à l'agression qu'a subie la RDC dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu. Ces élus se disent déterminés et rangés comme un seul homme derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette du M23. On écoute leur porte-parole, le député Prosper Bukassa.
Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, errent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement.
L'heure est grave, le pays est en danger. C'est par cette déclaration sanctionnant la fin des travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques catholiques jeudi 10 novembre à Kinshasa que la CENCO appelle à l'unité de tous les Congolais, à taire les divergences, que l'on soit de l'opposition politique ou du pouvoir, et à soutenir les FARDC engagés au front pour sauver l'intégrité du territoire national. Ils invitent tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté à une marche patriotique pacifique le 4 décembre prochain. Le condensé de cette déclaration avec Jeff Ngoy.
Selon les évêques, on ne doit pas laisser balkaniser la RDC. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la diaspora, c'est un appel à la mobilisation générale à gêner, à prier et à poser les gestes de solidarité envers les déplacés. Ne croisons pas les bras en tant que peuple uni, nous constituons une force. C'est de la responsabilité de tous, d'après les prélats. Ils interpellent la communauté internationale sur leur complaisance et complicité avec les multinationales et les pays prédateurs des ressources naturelles congolaises. Cette communauté, déclare-t-il, dans sa duplicité, souffle le chaud et le froid. Pour les évêques, il ne faut pas oublier qu'au-delà des richesses naturelles, le peuple congolais a besoin de vivre dans la paix. Il demande à l'État congolais d'assumer ses responsabilités en assurant aux Congolais le droit à la vie, à la paix et l'intégrité territoriale.
Interface.
C'est depuis 1996 que l'Est de la RDC est jusqu'à ce jour instable, et ce, malgré plusieurs démarches diplomatiques et militaires dans la région, y compris la présence de la mission des Nations Unies dans la région. Comment le Parlement s'implique-t-il dans la résolution de cette crise dans l'Est du pays? Que faut-il donc faire pour apporter une paix durable dans la région? Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, plaide pour la prise de position des pays de la région contre l'agression du Rwanda.
On a vu par exemple le cas d'Ukraine. Il y a même des pays étrangers qui interviennent, même des pays africains qui prennent position. Mais il est vraiment déplorable que l'Union africaine, le Parlement panafricain ne puisse pas prendre position devant une situation comme celle de l'agression par le Rwanda de la République démocratique du Congo, le Rwanda qui agit à travers les terroristes du M23.
Alors que Nairobi 3 est annoncé pour cette semaine afin d'apporter une réponse diplomatique à la crise, l'Assemblée nationale, elle, fustige l'infiltration de notre armée par l'ennemi et a voté une résolution interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec le M23 et autres groupes armés en vue de leur intégration au sein des FARDC. Joseph Lembi, rapporteur de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale déclare le M23 groupe terroriste, interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées ou de tout autre service de sécurité des éléments ici des groupes armés.
Cette position est appréciée par la majorité des députés de l'Union sacrée.
Cette recommandation de l'Assemblée nationale vient qu'appuyer le vœu du président de la République. Quand il a pris le pouvoir, il avait promis d'en finir avec l'intégration dans l'armée. Ceux qui ont massacré les Congolais, plus de 11 millions de morts pendant 30 ans, ça en est trop.
En adoptant cette recommandation, nous voulons dire devant Dieu que nous en avons marre. Le sang de Congolais a suffisamment coulé.
Ça ne fait aucun doute au jour d'aujourd'hui. C'est le Rwanda qui agit sous le label du M23.
Le député Moïse Nyarugabo de l'opposition qui a voté contre cette résolution estime que bloquer toute négociation est une mesure imprudente.
Ma première remarque, c'est de dire sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23 parce que lui est cité. Ça, c'est la première main. La deuxième, nous sommes un pays en guerre. On ne peut pas fermer toutes les portes des négociations.
Prenant part à la conférence du Parlement panafricain en Afrique du Sud, la députée Jeannette Kabila, elle, plaide pour un dialogue inter-rwandais pour une stabilisation efficace de la région. Jeannette Kabila.
Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de fichier mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a quéré pas. Et un, deux, ancien combattant, on a souqué, m'a quéré pas. Et un, la guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient à la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas vite, Changi, mon chéri, oh, il est cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, pas t'attrape, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre, les reines cadavre, les empereurs cadavre, tous les présidents cadavre, les ministres cadavre, les gardes-corps cadavre, les montagnes cadavre, les militaires cadavre, les civils cadavre, les policiers cadavre. Les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavres, musique club cadavre, tout le monde est cadavre, moi-même est cadavre. Maquelle pas, y'a un, deux, ancien combattant, on a soukéré. Maquelle pas, y'a un, deux, ancien combattant, on a soukéré. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer.
Ancien combattant, c'est un titre tiré de l'album qui porte le même nom, composé par Zao en 1984. Comment parvenir à une solution durable à cette crise et quel rôle devrait jouer la population pour y parvenir? Nous recevons dans cette émission le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux ont dressé les pères évêques de la CENCO sur la situation sécuritaire en RDC?
Les évêques ont fait un état des lieux sur la situation sécuritaire. Ils considèrent que le pays est vraiment en danger. Ils se sont concentrés particulièrement sur la situation de l'est du pays. Ils ont signalé la reprise de Bunagana, de Rutshuru et de Kiwanja par les M23. Une situation qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines et de déplacements massifs de nos compatriotes. Malgré l'état de siège, malgré toutes les dispositions prises par les autorités pour sécuriser le pays, le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Et c'est dramatique. À l'ouest, c'est la situation à Kwamuntu qui a préoccupé nos pères évêques. Toujours à l'ouest, du côté du Bas-Congo, il y a quand même des situations inquiétantes. Des gens qui voient leurs terres vendues et achetées par des étrangers non autrement identifiés, leurs maisons détruites, les cimetières profanés. Et alors les évêques disent, mais si nous ne prenons garde, nous risquons de voir ce pays balkanisé un matin.
L'élan du développement de la RDC est bloqué suite à l'instabilité du pays. Que recommande la CENCO au gouvernement et à l'opposition pour faire face à cette situation?
Le pasteur recommande au gouvernement de tout mettre en place pour pouvoir équiper, moderniser notre armée, motiver nos militaires pour qu'ils soient en mesure de défendre la patrie. Et pour cela, il conseille la réduction de train de vie de nos institutions et de nos dirigeants. Il faut des moyens. Sans une armée solide, nous allons tourner en rond. La justice, la vraie alors, est indispensable pour pouvoir mettre fin à cette situation. Les évêques considérant le fait que toutes les bonnes dispositions prises par le gouvernement n'ont pas fonctionné pour rassurer la paix, ils demandent au gouvernement de mettre en place un cadre national beaucoup plus large, au-delà des affinités politiques, c'est-à-dire en impliquant l'opposition et les notables du pays pour réfléchir ensemble, arrêter de nouvelles stratégies. Et à l'opposition, les évêques demandent de mettre de côté les querelles politiques, que tout le monde se réunisse pour pouvoir réfléchir ensemble et contribuer à la recherche d'une solution, parce que l'enjeu est de taille. Si le pays est pris, mais qui va diriger? Sur qui?
Les évêques appellent à la marche des chrétiens et toute personne de bonne volonté le 4 décembre prochain. Pensez-vous que cela soit efficace pour apporter la paix dans l'Est?
La marche proposée par les évêques le 4 décembre 2022, à la suite de la prière et des jeûnes et des gestes de solidarité qu'ils ont recommandés, se veut la manifestation d'un ras-le-bol du peuple congolais qui doit crier que ce n'est pas normal qu'elle soit dans cette situation avec la complicité des uns et des autres qui ont pourtant des leviers pour ramener la paix. Les évêques voudraient que, à travers cette marche, le peuple congolais prenne davantage conscience qu'il ne doit pas attendre son salut d'ailleurs et doit se mettre ensemble, être unis et debout pour dire non à la balkanisation et pour défendre la souveraineté nationale de notre pays.
Comme vous le savez, un autre enjeu de cette guerre, c'est l'exploitation illicite des minerais de la RDC par ses voisins, en complicité avec des multinationales. Que préconisez-vous pour que les richesses de la RDC ne soient plus source de malheur de sa population, mais plutôt moteur du développement?
Les évêques membres de la CENCO avaient déjà fait un plaidoyer, particulièrement au niveau du Sénat américain, pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le minerai dit de sang. Ils ont demandé et obtenu d'ailleurs la loi Doc France pour qu'on exige la traçabilité des minerais qui sortent de l'Est et pour que ne soient pas achetés. Malheureusement, cette loi souffre encore d'application. Il est vrai que beaucoup de pays, beaucoup de multinationales ont intérêt à ce que les désordres continuent à l'est du Congo pour qu'ils puissent opérer tranquillement sans dépenser beaucoup d'argent, malheureusement avec la complicité de quelques Congolais. Voilà pourquoi la communauté internationale et les organisations régionales doivent être davantage interpellées pour contribuer à une exploitation légale qui puisse bénéficier pas seulement aux Congolais, mais aussi aux voisins, pourquoi pas à toute la communauté internationale.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Merci.
La jeunesse du Nord Kivu estime que cette situation d'insécurité et d'agression de la RDC par le Rwanda a trop duré et est entretenue par la communauté internationale. Elle plaide donc dans une pétition adressée au Parlement pour le départ de la MONUSCO.
Si on est contre la MONUSCO, c'est à cause de la non-assistance de personnes à danger. Ils savent bien les gens qui sont impliqués dans le massacre, mais ils n'ont jamais fait quelque chose pour qu'on arrive à arrêter tous ces officiers impliqués dans le massacre, bien que nous avions déjà déposé au bureau de l'Assemblée nationale Mais l'objectif principal est de déposer notre pétition de 50 000 signatures au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'elle aussi fasse la saisie de la Cour pénale internationale. Pour nous, la question de Beni Irumu Mambasa doit cesser d'être gérée dans l'opacité parce que la vie humaine est sacrée. Aujourd'hui, la vie est fortement en danger. Et de notre part, on a besoin que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse faire son rôle, lui étant que l'organe de sécurité de l'ONU.
Notre cause est juste et ton colonne baisser des gigants et vos principes sont et pour moi les bits sont mis sortis la génération future. Tembe boko suka sena tembe Otu moli bala kongo ye bate oko suka Na kisho seto la kisindenge pepla zali Kasi na kongo mobi mbeko zalandenge moko Isanga bande koto bunda mpona ekolo Ekolo kongo mabele tika bakoto Yo kongo toko niko wela yo nana ni kongo Kongo Kongo
Ata basali mumburu bafolo ngate biso tomesani na kinya na kongo na biso
Omebo ya biso moko tokupela poni nioma Tuyamte
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 Fapo na Congo, c'est une composition des plus grands stars tirée de l'album Pour l'amour de leur cher Congo. Le sénateur Augustin Matata, président du parti politique de l'opposition Leadership et Gouvernance démocratique, affirme son soutien au FARDC et à son commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. Augustin Matata Mponyo invite par ailleurs la classe politique à un sursaut patriotique et à un leadership et une gouvernance de qualité pour mettre fin à cette crise. Augustin Matata Mponyo, bonjour.
Bonjour Michel.
Vous réaffirmez votre soutien au FARDC et au commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui motive votre position actuelle?
Bon, écoutez, le pays est en guerre. Et tout le monde sait aussi que l'objectif ultime de cette guerre, c'est déposséder la République démocratique du Congo d'une partie de son territoire. Et ça, je crois, ça touche au cœur, à l'âme et à l'esprit de tout Congolais. Si moi, M. Matata, par souci de patriotisme, par souci d'efficacité de notre armée, si je soutiens l'armée, mais je ne peux pas ne pas soutenir le commandant suprême. Quelles que soient les divergences de vue, quelles que soient les divergences d'idéologie, si vous soutenez une armée, vous devez absolument soutenir le commandant suprême qui dicte les instructions à cette armée.
À comprendre votre position actuelle, vous n'êtes plus dans l'opposition. Maintenant, vous travaillez avec le président Tshisekedi.
Non, Michel, je dois vous réaffirmer que mon parti, le LGD, ainsi que moi-même, qui suis le président, nous demeurons dans l'opposition. Mais il faut faire la part des choses. Ici, nous sommes dans une situation qui met la nation en danger. Dans le monde entier, on a vu, lorsque les nations sont en danger, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il y a l'âme du pays. Et l'âme et l'esprit du pays n'ont pas de coloration politique. Aujourd'hui, moi je suis dans l'opposition. L'objectif de notre parti, c'est de diriger un jour. Mais est-ce que vous allez diriger un pays qui est coupé de l'est du pays? Non. Donc nous devons d'abord tous rester unis pour que le pays reste en entier, afin que demain, quand vous allez prendre le pouvoir, que vous ayez un pays qui est entier.
Donc vous partagez aussi la position du gouvernement congolais qui indexe le Rwanda d'être l'agresseur de la RDC sous couvert du M23.
Tout le monde sait que le M23 est un mouvement téléguidé par le Rwanda. C'est le Rwanda lui-même qui est l'agresseur. Et je ne le dis pas par passion, comme le feraient d'autres personnes. Je le dis en tant qu'un ancien Premier ministre.
Justement, en 2013, quand vous étiez Premier ministre, les FARDC ont réussi à défaire le M23 et vous avez joué un rôle prépondérant en tant que chef du gouvernement. Quel a été votre secret à l'époque?
J'ai été à Bounagana. J'ai pris les risques d'arriver sur le terrain. En résumé, il y avait un problème de gouvernance et il y avait un problème de leadership. Sous la tutelle du président de la République de l'époque, le président Kabila, nous avons pris des dispositions pour améliorer la gestion de nos troupes qui étaient sur place. Et nous avons aussi pris des dispositions pour améliorer les commandements et donc le leadership. La conséquence, c'est que les troupes qui étaient au front étaient plus efficaces qu'avant. Et avec l'appui en arrière des forces de la MONUSCO, ce sont les forces armées congolaises qui ont bouté dehors le M23. Ces mêmes forces congolaises sont en mesure de rééditer l'exploit si le leadership de qualité et la gouvernance de qualité est assumée.
Serez-vous disposé, puisque vous avez l'expérience, à apporter votre expertise au président de la République et au gouvernement si on vous le demandait?
Bon, écoutez, ce n'est que normal. J'ai déjà apporté ma contribution en apportant le soutien pour une mobilisation de l'ensemble des Congolais. Et là, je voudrais souligner ça. Michel, il n'y a pas une meilleure armée dans le monde que l'âme, l'esprit et la détermination d'un peuple. On l'a vu dans l'histoire des grandes armées dans le monde entier. Lorsque le peuple résiste, même les meilleures armées échouent. S'il y a des conseils qu'il faut donner, je pense que ce n'est pas seulement l'appui de M. Matata, l'appui de l'ancien président de la République, de l'ancien ministre de la Défense de l'époque, de l'ancien chef d'état-major général des forces armées de l'époque, du premier ministre, c'est tout à fait important parce que nous avons le secret au travers lequel nous avons bouté le M23 dehors. Et si on demande ce secret, mais on le donne aussi par nationalisme, par patriotisme, parce que personne n'acceptera qu'un mètre carré de la RDC soit soustrait.
La toute dernière question, vous fustigez l'inaction de la communauté internationale face à cette agression rwandaise. À votre avis, que devrait devenir le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo?
La population congolaise attend que la MONUSCO dénonce ou dise la vérité, parce que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Mais pourquoi les Nations Unies ne veulent pas le dire? Un, il faut que les Nations Unies dénoncent l'agresseur. Deux, il faut que les Nations Unies puissent demander à l'agresseur de se retirer. Troisièmement, Michel, il faut que les Nations Unies puissent soutenir ce qu'on appelle la réforme des forces armées congolaises, la réforme de la police. Enfin, il faut absolument que les Nations Unies puissent soutenir l'amélioration des leaderships et de la gouvernance de qualité, parce que tout est fonction de l'art.
Augustin Matata Mponyo, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin d'Interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. Jeff Ngoy et Philbert Balolagué ont contribué à sa réalisation sous la supervision de Jean-Marc Matouaki et Martin Seboujangwe. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Vous pouvez suivre la rediffusion de ces numéros mercredi à 15h30 et 22h juste. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi à 8h30. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Au revoir.